Bonjour à tous. Dans la grande table des idées aujourd'hui, la sexualité entre révolution et régression. Comment la connaissance que nous en avons a influencé nos comportements? On en discutera à partir de 12h55 avec notre invitée, l'historienne Sylvie Steinberg, auteure d'une histoire des sexualités aux presses universitaires de France, et avec le journaliste Christophe Caron, rédacteur en chef de Slate.fr, qui a mis le sexe en liberté dans son journal en ligne. Mais d'abord, les variations de Chilly Gonzalez. Alors que le troisième opus de son solo piano sort enfin ce vendredi, le musicien canadien nous offre une leçon de piano au studio 108 de Radio France. À voir aussi le film Shut Up and Play the Piano de Philippe Yedike, qui sort en salle le 19 septembre. Chilly Gonzalez est l'invité de la grande table de la culture, tout de suite à écouter sur notre antenne ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Bonjour Chilly Gonzalez. Vous allez avoir beaucoup de répondants, je sens, pendant cette discussion. Est-ce que je peux voir vos mains?
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos mains?
Ben, je joue un peu aplati les mains. C'est pas exactement la forme des mains qui fait rêver les profs de piano. J'ai tendance de traiter le piano un peu comme une batterie avec des notes. Donc je tape plus que j'appuie sur les touches. On m'a dit ça.
Vous aimeriez en avoir trois des mains, une main gauche et deux mains droites, comme sur la pochette de l'album?
Ben en fait, le troisième main, c'est un vrai concept qui date de l'époque romantique du piano, de l'époque de Franz Liszt et ses compatriotes. Et c'est le moment où les morceaux de piano, ils deviennent de plus en plus ambitieux. Les pianos eux-mêmes, ils étaient technologiquement plus forts, plus intenses, il y avait plus de possibilités. Et donc les compositeurs de piano de cette époque, ils cherchaient la troisième main. Et si je peux juste donner un exemple, par exemple, il y a un morceau sur l'album qui s'appelle October 3rd, le 3 octobre. Et en fait, le morceau commence avec des arpèges comme ça. Et donc l'oreille a tendance de déjà entendre deux mains qui jouent. On entend une texture avec deux mains, avec des arpèges. Et après, je rajoute une mélodie. Avec le cinquième doigt, en secret un peu. Et surtout avec ce cinquième doigt, si je réussis à taper la mélodie très fort, très chantant, pendant que les arpèges restent un peu plus... Le pianissimo, ben, on a presque tendance de dire qu'on entend deux pianistes, ou au moins un troisième main.
Vous voilà, vous, devant ce piano du studio 108 à Radio France, moi, sur mon tabouret un peu surélevé, pour ce dernier opus d'une trilogie que vous avez entamée il y a 14 ans. Solo Piano 3 est une histoire de la musique en 15 étapes. Tous vos morceaux sont dédicacés à des personnalités différentes. La première au père de la pédagogie autrichienne, Rudolf Steiner. Les suivantes à des compositrices, des religieuses, une aviatrice, un architecte et aussi une à la gymnaste Nadia Comaneci. Une grande passion pour les femmes.
Je suis attiré par les personnages qui ont dû lutter. Moi, je n'ai pas trop lutté pour ma carrière. J'ai choisi peut-être d'essayer de faire quelque chose d'original. Donc, ça me rend un tout petit peu dans la lutte, peut-être. Ce qu'on dirait en anglais, un underdog, ou en français, un sous-chien. Ça se dit, non?
Non, pas du tout.
OK, non, maintenant, ça se dit. Donc, je suis attiré par les sous-chiens. Et surtout les sous-chiens qui n'ont pas eu le choix, comme moi, de l'être. C'est des sous-chiens par nécessité, parce que la société a peut-être interdit quelque chose. Et les femmes, ils ont lutté beaucoup pour faire certaines professions, certains travails. Donc, je trouve ça admirable.
Ça, c'est le trait commun pour la plupart d'entre elles, toutes des combattantes, des femmes en lutte, à qui vous dédicacez donc des titres de cet album, Chilly Gonzalez. Tous aussi des work addicts, des accros au boulot, un peu obsessionnels, comme vous. Il semblait logique de vous en dédicacer une à vous-même. C'est October 3rd que vous venez de jouer en partie, que vous allez peut-être pouvoir nous jouer plus longuement, le 3 octobre. Pourquoi cette date? C'est le jour de l'immortel, mais à part ça...
C'est aussi le jour de l'unité allemande, mais ce n'est pas ça non plus. Finalement, c'est quelque chose qui m'est arrivé le 3 octobre, qui était très important dans ma vie. Mais je suis assez privé comme personne. Sur scène, je partage mes fantasmes. Je trouve l'intimité en partageant mes fantasmes d'être génie musical, de vivre un fantasme d'impunité sur scène, par exemple. Mais ma vraie vie privée, je ne partage pas. Je le garde pour moi. Et donc, j'ai voulu quand même que les gens sachent que ce morceau, c'est le cœur émotionnel de l'album, que ça représente quelque chose d'important. Donc, finalement, j'ai choisi de banaliser le titre. Le reste de mes chansons, ils ont souvent des petits jeux de mots ou des mots que je trouve sonnent bien. October 3rd, c'est presque banal et c'est dédié à moi-même pour que les gens sachent. Celle-là, elle est différente.
Alors, si vous nous le jouez, on verra peut-être si ça relève plutôt du coup de cœur et du battement d'aile dans ce morceau ou si c'est plutôt un événement dramatique, ce 3 octobre, avec une face sombre de votre vie, sans savoir le détail. À chacun d'interpréter. Mais vous avez quand même quelque chose dans la vie de l'amant mélancolique, Chilly Gonzalez.
Bien sûr, je crois que le jouer de la musique pour moi, c'était, comment on dit en anglais, a safe space, un endroit sécurisé dans lequel je pourrais exprimer des choses que je sentais qui étaient interdites peut-être à exprimer autrement. Soit dans la société, soit dans ma famille, j'en sais rien, mais je crois que découvrir le piano tout seul, de comprendre qu'on se sent bien parce que le temps passe et on n'a pas à avoir avec les autres êtres humains. mais on se sent pas seul parce que la musique donne quelque chose. Et la contradiction, c'est que plus tard, ça m'aide à m'intégrer à la société. Ça me trouve une place dans ma famille. Les gens applaudissent, les gens me respectent, les filles me regardent. Tout ça, toute ma vie, c'est une contradiction. Comment est-ce que c'est possible que l'endroit le plus intime qui était que pour moi, maintenant devient la seule façon dont je peux me présenter au monde? Ça, c'est un peu le paradoxe et la beauté d'être artiste, peut-être.
Il y a quelque chose aussi de Glenn Gould, de cette figure à qui vous avez rendu hommage, d'ailleurs, Chilly Gonzalez, à qui on disait qu'il était angoissé, qu'il était névrosé. Il s'abritait aussi, d'une certaine manière, dans son studio, qui était un refuge derrière son piano. Mais lui disait qu'il avait derrière ce piano des moments d'extase, ce piano extase qui lui permettait de décrocher du réel. Vous ressentez ça parfois au piano, ce sentiment d'envoler?
Pas tout seul.
Quand vos doigts se baladent sur
non,
les touches.
Pas tout seul comme Glenn Gould. Glenn Gould, au fond de lui, il a vraiment arrêté de jouer devant des gens. Et il s'est réfugié. C'est lui, il trouvait, je crois, sa façon d'exprimer tout seul. Ça lui satisfaisait. Moi, ce que je fais seul, c'est de préparer pour jouer devant des gens. Je suis en répétition. Même si je compose, c'est pour savoir qu'à un moment, je vais enregistrer l'album. Et après, je vais faire la tournée. Je vais jouer les titres pour des gens qui sont devant moi. Pour moi, la musique n'existe pas, vraiment, quand je suis tout seul. Et les gens demandent des fois, vous êtes artiste ou entertainer? Et je dis, je suis artiste quand je suis seul. Mais le moment que je pense à l'autre, évidemment, je suis entertainer. Parce qu'il faut que je fais le saut à travers le gouffre entre moi et les autres. Donc finalement, entertainer, c'est pas différent que l'artiste, c'est un changement, c'est une transformation, c'est comme l'eau qui devient le gaz. L'artiste devient entertainer le moment qu'il ou elle se retrouve devant quelqu'un. Mais tout seul, je suis un artiste.
Il y a un plaisir dans la communion avec les autres, avec ce public. Vous avez eu de nombreuses collaborations avec Feist, avec les Daft Punk, avec Drake ou encore avec le Kaiser Quartet pour l'album Chambers. Mais dans la création, vous êtes plutôt solitaire?
It's a little Daft Punk moment. La collaboration marche bien quand j'ai déjà du chimie avec des gens. Donc souvent, c'est l'amitié ou une conversation qui est intéressante qui mène à une collaboration. C'est très rare que le téléphone sonne et qu'il y a quelqu'un qui me demande comme ça, on se connaît pas, mais viens en studio avec moi. Si, je l'ai fait, mais c'est trop risqué. On sait jamais s'il y a avoir ce chimie. Quand j'étais réalisateur, il y avait des gens sur lesquels j'avais fantasmé. Et ça s'est mal passé. Donc j'ai compris très vite de rester avec les amis, de se sentir bien. Et quand j'ai fait un album, par exemple, avec Jarvis Cocker, le chanteur de Pulp, ben on est devenus amis pendant 6-7 ans, même avant de jouer de la musique ensemble. Et comme ça, sur 3-4 ans, on a fait un album, on l'a sorti, mais c'est une histoire naturelle et lente. Et l'idée d'être collaborateur par excellence, que je me retrouve en studio avec des gens que je connais pas, c'est pas très facile pour moi. Mais dans le film Shut Up and Play the Piano, qui est un documentaire sur ma carrière, Jarvis dit, je vais le citer, il dit que un artiste c'est quelqu'un qui apprend sur lui ou elle-même en faisant des choses. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que on a toujours tendance de voir un master plan en rétrospect. Ah oui, j'ai fait ça. Mais finalement, c'est juste une série de micro-décisions instinctives. Et pour qu'on puisse vraiment produire des choses qui nous surprennent nous-mêmes, il faut qu'on reste des mystères à nous-mêmes. Et c'est juste avec un peu de distance, on devient notre propre DA quelque part. Et c'est là où on pense encore à ce saut à travers le gouffre pour les autres gens. Quand je fais mes morceaux, je pense pas aux dédicaces. Je pense pas au titre du morceau. Je suis juste dans un truc mystérieux. Et je finis un morceau, et avec peut-être le recul de quelques semaines, je change d'avis. Et je dis, OK, maintenant je vais imaginer comment vont les gens expérimenter ça. Comment est-ce que les gens vont écouter ça? Et là, c'est un autre processus qui est la transformation d'être un artiste qui est mystère à soi-même à un entertainer assez presque calculateur et stratégique.
Le maestro Chilly Gonzalez est notre invité sur France Culture, invité de la Grande Table jusqu'à midi et demi.
France Culture, la Grande Table, Olivia Jesbert.
Et dans ce troisième opus de votre solo piano, Chilly Gonzalez, il y a aussi beaucoup d'hommages. Des hommages à Chico Marx, mais aussi un hommage à Bach, avec son prélude dont vous reprenez le premier arpège avant d'en modifier la couleur harmonique, un côté visiteur du soir, le vôtre que l'on retrouve donc dans cet album, visiteur ou revisiteur des grands classiques du répertoire de la musique de chambre à l'électro, qui continue à en dérouter certains, mais en fait il faut juste comprendre que vous êtes l'homme des re et l'homme des dé. Revisiter, réintroduire, ça a été le cas avec un livre de partition pour les amateurs de piano, de musique, déconstruire avec des morceaux de musique pop notamment. Vous aimez bien triturer la matière?
Non, mais c'est vrai, j'aime bien ce préfixe re. Je me souviens quand Daft Punk, je les ai rencontrés et ils m'ont demandé un remix. Mais finalement, j'étais pas producteur d'électro. J'ai dit, ben, c'est les maîtres d'électro qui m'ont même inspiré de même essayer d'en faire de l'électro à ma manière un peu punk, en étant touriste dans le monde électro. Donc, j'ai pas osé faire un remix dans leur style. Et donc, j'ai un peu imaginé que le morceau en question, c'était peut-être un tube des années 70, parce que je savais que Daft Punk, il avait un petit fétiche pour cette époque-là. Donc, le morceau s'appelait Too Long. C'est chanté par Rom Anthony sur l'album Discovery. Et en gros, c'est... It's been much too long, I feel it coming on, the feeling's getting strong. Un vrai Detroit House banger. Et je me suis dit, et pourquoi on pourrait pas imaginer que c'est... It's been much too long. Un peu comme It's a Billy Joel ou un morceau comme ça, parce que je savais qu'ils étaient fans des 70s, donc quelque part je fais un pre-make, même pas un remake, parce que j'ai un peu imaginé qu'il y avait un antécédent de ce morceau. Donc du coup, j'ai toujours confondu cette idée de remix, remake, rework, mais c'est une façon de faire comme Mozart il a fait avec Salieri quand il a voulu un peu taquiner son rival à Salieri. Il a dit, ben, je vais prendre ton thème et je vais faire de ça des variations géniales. Et, le thème et variation, le genre de pièce classique, quelque part, c'est un remix avant le fait. Et les musiciens se parlent à travers les siècles. À chaque fois que je fais de lecture à vue, quelque part, j'incarne le compositeur. Si je joue Haydn ce jour-là, ben, quelque part, je deviens Joseph Haydn en ce moment. Donc, de faire un remix ou un remake, or whatever you want to call it, c'est une façon d'être dans le pot des autres. J'étais dans le pot des Daft Punk ou dans leur casque, dans leur casquette, maybe.
Et dans cet album, vous vous glissez aussi dans la peau de Chico Marx, des Marx Brothers. C'était l'aîné des cinq frères. Il y a un petit air de famille d'ailleurs entre vous deux. On a revu Une nuit à l'opéra et on peut l'écouter deux secondes au piano. Chico Marx et Chilly Gonzalez en duo sur France Culture, on a rétabli ça des années après. Ce qui vous plaît chez lui, c'est sa manière de jouer avec les touches, de jouer avec les notes. C'est quelqu'un qui aimait ce côté très spectacle aussi de la musique.
En fait, il joue le public, ouais. Il joue pas le piano, il joue son public. C'est ça que j'essaie de faire à chaque fois. Ça, c'est un moment, évidemment, quand on le voit dans le film, pour moi, ça m'a changé la vie parce que jusqu'à là, j'étais dans un mode un peu strict avec mon grand-père qui me montrait le piano.
Là, ça vous a décomplexé?
Ben, il n'était pas respectueux au compositeur. Il était respectueux à son audience, à son public. Ça, c'est une grande différence. Mon grand-père, Pour lui, il comptait juste si on respecte la musique, si on respecte le compositeur, si on respecte l'Europe quelque part, parce que c'était quelqu'un peut-être qui l'Europe lui manquait peut-être.
Il venait de là.
Il venait de là et il a pas voulu partir. Il était juif, il n'avait pas le choix. Il est parti au Canada et donc pour mettre sa famille en contact avec la musique européenne, c'était hyper important pour lui. Mais il n'était pas quelqu'un qui a pensé à cette communication entre le musicien et son public. Et ça, c'est l'erreur souvent qu'on puisse faire des fois dans la musique classique ou le jazz, pas tous, mais des fois, si on a un sentiment que cette musique n'est pas aussi vivante que la musique pop, par exemple, c'est parce qu'ils ont oublié que la priorité, c'est l'auditeur. Et dans la pop, au moins, on penche toujours à l'auditeur. Des fois, peut-être trop même. Mais au moins, je préfère vivre dans un monde de entertainment et d'en rajouter un peu de substance au lieu de me dire que je suis dans un monde un peu mort-vivant, comme le monde classique ou le monde jazz.
Vous qui remixez, qui démixez, qui fusionnez, vous nous proposiez un mix entre Bach, justement, et Chico Marx. Un medley, comme on dit.
Oui, ben le premier morceau, c'est la réponse au prélude en Do majeur, Prelude in C major. Voilà, vous le connaissez sans doute. C'est un morceau qu'on a tellement entendu, on ne peut même pas le juger qualitativement. Et donc je me suis dit, et si j'essaie de répondre et de faire une musique moderne qui nous permet peut-être de réécouter cette forme d'arpège. Et là, le medley, ça va après tourner à le morceau Chico, qui, vous allez entendre, une influence assez directe de cette musique qu'on vient d'écouter, que Chico joue sur le bateau de A Night at the Opera. C'était directement inspiré par cette scène. Donc voilà, prélude en premier et Chico. Thank you.
Bravo, bravo, merci beaucoup. Il y a chez vous un plaisir du partage, du jeu, un plaisir aussi de la transmission chez les Gonzalez. Et vous l'avez une fois encore prouvé avec ce petit conservatoire que vous avez mis sur pied, conservatoire éphémère, votre conservatory. Il faut être canadien pour inventer des mots valises comme celui-là, contraction de Gonzo et de conservatory. Plaisir de la transmission, plaisir du jeu aussi. Électro, pop, classique, on a loué depuis toujours votre éclectisme. Mais où est-ce que vous vous sentez, vous, vraiment chez vous ? Dans quelle musique ?
Le rap. Le rap, ça m'a toujours inspiré car les rappeurs sont des héros pour moi parce qu'ils arrivent à être plus gros que la vie, larger than life, comme on dit. Et en même temps, j'ai l'impression de les connaître. Ça me donne la même sensation que mes premiers héros musicaux comme Morrissey, from the Smiths, ou même bien David Bowie, ou Prince. C'est des gens, on connaît leurs fantasmes.
C'est le côté vilain garçon un peu ?
Non, c'est le fait qu'on savait que David Bowie, c'est ridicule de dire qu'on est un ovni, qu'on vient de Mars, et de s'habiller comme ça. Mais on rigole pas. On rigole pas parce qu'on croit que, en fait, il y a quelque chose de plus profond dans ce fantasme. Même Franz Liszt, il a laissé croire qu'il était possédé par le diable. Donc, je crois que je suis touché par les gens qui partagent leurs fantasmes, car même dans une relation amoureuse, de partager les fantasmes, c'est le plus intime qu'on puisse être. Et quand un artiste fait ça, c'est beaucoup mieux de partager trop de sa vie privée. Ça, c'est la télé-réalité pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est savoir les fantasmes des gens. Et les rappeurs, ils mettent ça vraiment en avant. C'est une musique de fantasme, c'est une musique de fantasme. Et surtout, ils sont pas là que pour montrer des côtés flatteurs de leur personnage. Quand je monte sur scène, c'est pas pour montrer que je suis gentil ou modeste ou respectueux. Je le suis des fois, mais c'est plutôt pour montrer les choses difficiles, le vilain, oui, le super vilain même. Des choses de cauchemar, l'arrogance qui masque un manque de confiance en soi, des choses comme ça, c'est important aussi. Le côté rancunier, le côté qu'on prenne de l'énergie de partout, de l'énergie positive pour faire la musique, mais aussi de prendre de l'énergie négative pour le détourner en positif. Et je décris les rappeurs, ils sont ignorants et intelligents en même temps, comme moi, comme toi, comme nous tous.
Et ils font chanter nos monstres. Chili Gonzalez, il y aura des concerts parisiens, mais les 22 et 26 septembre sont déjà complets. Il y a une tournée partout en France, ce sera en février. On vous retrouvera le 26 et le 27 juin au Trianon. Il y a ce film que vous avez évoqué, Shut Up and Play the Piano, de Philippe Yedic, qui sera en salle le 19 septembre. Et puis on pourra vous retrouver ici, à France Culture, le 14 septembre à 19h, au studio 106, pour une masterclass avec Maëlys Bessery. Il y a une centaine de places, donc il faut s'inscrire assez vite, et les inscriptions sont lancées. Maintenant, il faut aller sur le site de la Maison de la Radio, maisondelaradio.fr. Je vous dis un énorme merci. Ça a été un bonheur de vous rencontrer.
C'était mon plaisir.